Vous avez compris que le sujet est d'une ambition folle. Et c'est la raison pour laquelle notre atelier, exceptionnellement, comporte 2 séminaires, 4 soirées métropolitaines, avant l'atelier proprement dit, qui se déroulera comme d'habitude en septembre. Le fil rouge de cette soirée, c'est comment on change le métabolisme d'une métropole dont les frontières réelles dépassent très largement les frontières administratives qui lui sont fixées. Voilà. Et la question, c'est comment on fait concrètement, avec qui, pour qui. Je vais maintenant vous entrer dans le vif du sujet, ou commencer à entrer dans le vif du sujet, en vous montrant quelques diapos que je rêvais de montrer depuis longtemps, mais j'avais jamais trouvé des sources suffisamment fiables et cohérentes. Là, on est sur quelque chose de très clair. C'est la croissance de la population dans le monde. Vous savez qu'on a passé les 6 milliards en 2000, qu'on est à 7 milliards et demi. Bon, enfin, la courbe a cette allure-là. Depuis 1750, c'est-à-dire depuis le début de la révolution industrielle. Ça, c'est les consommations d'énergie, et pour l'essentiel, 90% d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, et puis après, en haut, il y a un peu d'hydro et un peu de nucléaire. Vous voyez l'allure de la courbe. À gauche, on n'est pas en 1750, on est en 1860, mais on a la même chose. Et puis ça, c'est un peu le résultat. On commence toujours à 1750. On est en émission de CO2. Et voilà l'allure de la courbe. Alors, pour vous mettre tout ça à l'échelle, j'ai essayé de tout ramener à la même échelle de temps. Voilà, ça donne ça quand on colle les énergies sur la population, et ça donne ça quand on colle le CO2 sur la population. Et évidemment, si vous savez tous qu'on a depuis 1950 un observatoire à Mauna Loa qui mesure la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on l'a vu apparaître dans le film d'Al Gore, là, hein, Une vérité qui dérange. C'était son professeur, d'ailleurs, à l'université, qui a commencé à mesurer la concentration de gaz à effet de serre en expliquant que ça allait, on allait tout droit à un changement climatique. Voilà, j'ai pris les derniers relevés. On est à 407 au milieu de l'année 2017. Le déclenchement du degré 5, c'est 415. Ça veut dire que c'est d'ici 3 à 4 ans, 2020, quoi. Et puis le déclenchement irréversible des 2 degrés, c'est autour de 450 parties par million, et c'est dans les années 2030. Alors, ce qui est, quand on fouille juste un cran plus loin, et ce sera ma dernière diapositive, 80% de ces émissions de gaz à effet de serre sont le fait des villes. Deuxième élément fort, 80% des gaz à effet de serre sont émis par la classe moyenne et supérieure mondiale. Ce qui veut dire, alors la classe moyenne et supérieure mondiale, c'est 2 milliards d'individus à peu près aujourd'hui sur 7 milliards et demi que compte la planète. Ce qui veut dire que nous sommes le problème et que nous sommes par conséquent la solution. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Avant de lancer le petit film, alors je l'ai pêché sur Internet, donc forcément, et puis j'ai pris 44 minutes et j'en ai fait 4, forcément l'image est mauvaise, mais le son est bon, et c'est ça qui compte, d'ouvrir les oreilles sur ce que nous dit Jean Covici. Vous allez voir, pour l'essentiel, il met le doigt sur un impensé de la doctrine économique qui explique beaucoup de choses.
Jean-Marc Jean Covici, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkerview. Le mix énergétique, ça doit vous parler?
Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon et un peu plus de 20% en gaz. L'énergie qui a le plus augmenté sur les 10 dernières années, c'est le charbon, en valeur absolue. Donc l'énergie, le mix énergétique mondial dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse.
Les répercussions sur l'économie?
Alors, la répercussion sur l'économie, il faut rappeler le rôle de l'énergie dans l'économie. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. Or, l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de 12, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. L'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machine, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine, et donc plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc il y a un lien inexorable entre la production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurée en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça.
Qu'est-ce qui se passe quand l'économie se contracte ?
C'est assez simple. Aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Alors pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse ? La personne qui est derrière la caméra, là, a besoin d'une machine. Si je lui supprime sa caméra, je lui supprime son emploi. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus, et même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines. Donc la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous, c'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste, qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit, c'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques.
Sans se castagner.
Sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux, et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème de mauvais tableau de bord. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. On a postulé il y a 2 siècles, dans l'économie classique, que les ressources naturelles, ça vaudrait zéro. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut zéro. Et donc, dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain, et le reste n'a pas d'importance.
Un conseil pour les jeunes générations ?
Sur ces problèmes qui sont des problèmes nouveaux, qui demandent des changements conceptuels importants, qui demandent de bien comprendre de quoi on parle, qui demandent d'être capable de bien faire la différence entre ce qui va se prolonger à l'avenir et ce qui ne peut pas se prolonger à l'avenir, j'ai envie de dire que le premier conseil, c'est de bien comprendre la situation dans laquelle on est. Tous les gens que j'ai vus s'organiser d'une façon que je considère être pertinente, ils sont passés par cette phase. Donc ça ne donne pas la solution, quoi. Par contre, ça permet de se forger sa propre opinion sur la façon de piloter son avenir. Donc le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est documentez-vous, mais correctement. Donc malheureusement, passer l'étape des médias, c'est pas suffisant. Essayez de mettre la chose en cohérence, c'est-à-dire tant que vous avez une réponse qui n'est pas cohérente, c'est que vous n'avez pas fini de comprendre, donc il faut continuer à creuser. Vraiment, je pense que le point important, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui est neuf dans la situation actuelle, parce que tant qu'on n'est pas passé par là, encore une fois, on ne voit pas ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer.
Jean-Marc Jancovici, merci.
Bon, le propos est évidemment brutal, puisque je l'ai beaucoup coupé, hein, le film fait 44 minutes, mais on est sur le physique et le virtuel. Et une des explications qui est si l'énergie fossile employée diminue, alors on a un problème à résoudre. La vidéo d'après, c'est l'ancienne maire de Copenhague. Copenhague qui, en 2009, a reçu une COP, qui, vous savez, a été un échec. Les gens de Copenhague ont décidé de réagir et ils ont, de proche en proche, fait Copenhague zéro carbone à l'horizon 2025 et ils sont en passe de réussir.
My name is Rit Bjerregaard and I'm the former Lord Mayor of Copenhagen and I've been in politics all my life. I think what really matters is for Copenhagen that you are very close to the inhabitants. There are a close connection between the city council and the population and the Lord Mayor, who himself is biking just as an example and showing people, yes, this is a good idea. All the city council, and that means many of the inhabitants of Copenhagen, really see Copenhagen as a forerunner on climate change. So when we're looking for solutions, we're going to find it in the cities. I think environment really matters to all Danes, or you might say most of the Nordic people. In Copenhagen, we do a lot about the cooperation with business, and we do see the quality of life as part of growth. C40 has been very, very good for the cooperation. Because this gives a possibility of meeting, and people feel obliged to do something, and they get inspired. I think, for instance, what Siemens are doing here with this in the crystal means that so many other cities get to know what's going on in Rio and what's going on in Rotterdam, and that gives them ideas to what they can do by themselves. I was very happy to host the mayor's conference in Copenhagen in 2009, mostly because we were also hosting the UN conference, and this was not successful at all. We didn't reach what we really wanted. But for the mayors, it was different. A lot of them were so disappointed about what happened at the UN conference. So they kind of thought, okay, no, we go back and we do things and we can change. And after that, I was very happy to see my successor, Frank Jensen, coming up with the 2025 plan for Copenhagen. I think what really matters for Copenhagen is that, and for many other cities, is that you are close to the citizens and you can make solutions which they can really feel, and you need to do it.
Voilà pour l'approche par les citoyens, les entreprises et les élus locaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet, après ces petites mises en appétit, en appelant nos invités, donc Yann Françoise, qui est le responsable du plan climat à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, Julien Dossier, qui est fondateur et gérant de Quattro Libri, un bureau d'études spécialisé dans le conseil bas carbone aux territoires et aux entreprises, André Joffre, je ne sais pas comment il faut le présenter, il est PDG de Texol, un bureau d'études qui est spécialisé dans la production d'électricité photovoltaïque, mais il se présente aussi comme un militant du solaire, de l'utilisation de l'énergie solaire depuis 35 ans, et je pense que c'est plutôt ça qui le caractérise. Vous verrez aussi qu'il est président d'un pôle de compétitivité à Perpignan. Et puis un peu plus tard, parce qu'il est occupé ailleurs, Mathieu Riva, qui travaille pour une SCOP, qui travaille pour les comités d'entreprise, toujours bas carbone, est aussi l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Ces maires qui changent tout », qui nous rejoindra un petit peu plus tard. C'est vraiment le génie créatif des communes à trois échelles de territoire, deux villages, deux petites villes, et puis Grenoble et Paris. Mais avant de nous lancer là-dedans, une première réaction avec ces deux petites interviews filmées, là. Julien, il est motivé.
Je voudrais juste parler d'une variable, la variable temps, qui va être intéressante, je pense, pour nos discussions, puisque je pense que Yann va nous parler de 2050. Et en ce moment, vous avez probablement entendu Jean Jouzel et Pierre Leroux-Turoux présenter leur récent ouvrage « Comment éviter le chaos climatique et financier ». Et Jean Jouzel a marqué les esprits cet été en rappelant qu'on n'a que 3 ans pour inverser la courbe des émissions. Cette variable temps, en fait, elle va être très structurante pour instruire les questions qui ont été posées. on va manquer de temps. Et si on établit la variable temps comme un guide de notre action, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre au clair. On va devoir faire des choix assez tranchés, assez vite, je pense.
Juste pour compléter, je partage l'avis sur la variable temps. Ce qui manque peut-être, mais Jean-Marc a été coupé, donc je ne vais pas juger sur le résumé, c'est il y a la variable temps et l'efficience. L'efficience de ce qu'on peut faire, entre autres sur l'énergie, bien évidemment sur les renouvelables, et mon voisin parle encore mieux que moi, mais l'efficience aussi du dialogue qu'on peut ouvrir, comme le disait l'ancienne Lord Mayor de Copenhague, avec l'ensemble de la communauté, des territoires, quels qu'ils soient ruraux, qu'ils soient citadins, des entreprises, des citoyens et bien évidemment des pouvoirs publics à toutes les échelles. C'est peut-être une des choses qu'il faut retenir de ce que fait Copenhague ou ce que font les villes scandinaves, c'est qu'il y a une meilleure culture du dialogue et du consensus entre tous les parties prenantes qu'entre autres. Chez nous, peut-être plus pays latin, où on est plus dans le face-à-face, l'opposition, que la co-construction. Et sur cette variable temps, cette efficience va être nécessaire pour réussir ce pari et cet énorme défi. Et je reviendrai après dessus.
Oui, ce qu'aborde Jokovici là, sur l'intensité énergétique et finalement le rapport de l'énergie au PIB, c'est un sujet qui traîne depuis le début des années 80. Je vous renvoie aux travaux de l'ADEME, à l'époque, ça s'appelait la FME, de Bernard Laponche, qui avait théorisé tout ça, qui avait fait un bouquin avec son épouse et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui semblait à notre portée à l'époque, hein, quand on regardait ça. Évidemment, on a décroché, on a une intensité énergétique qui a diminué, mais qui s'est liée essentiellement au départ à la désindustrialisation du monde occidental. Hein. Donc, ce n'est pas lié du tout, malheureusement, aux économies d'énergie qu'on aurait pu générer de façon importante. Ça, c'est à mon avis, l'urgence. L'urgence fait qu'il faut s'intéresser prioritairement à la maîtrise de l'énergie. Parce que c'est peut-être celle qui pourrait être la plus réactive. Il y a des gestes qu'il suffit de faire et qui ne demandent pas d'investissement et qui permettent de réduire très significativement les consommations énergétiques. Parce que tout le reste, et c'est un peu la vision de Jokovici qui l'oriente un peu sur la production d'énergie, tout le reste, effectivement, demandera du temps. Même les énergies renouvelables, qui aujourd'hui arrivent à un niveau de compétitivité inégalé, je vous en parlerai, c'est vrai que les choses s'accélèrent, que le digital vient rajouter là une dimension supplémentaire, mais malgré tout, il faudra du temps, parce que cette année, on a installé 100 gigawatts dans le monde de photovoltaïque, que c'est très très faible par rapport à la capacité mondiale, comme il le dit très bien. Aujourd'hui, on a un monde qui est encore dominé par les hydrocarbures et qui le restera longtemps. Donc, voilà, c'est le vrai sujet, c'est qu'il y a urgence, et la seule façon d'aller vite, c'est de faire des choses qui ne coûtent rien, et ça passe par les mégawatts, on appelle comme on veut, mais enfin, une démarche de maîtrise de l'énergie qui serait, à mon avis, la plus rapide à mettre en œuvre, à condition qu'il y ait une réelle volonté politique que je ne perçois pas totalement.
Et nous y voilà,